Donc, j'ai l'honneur de donner la parole à Pierre Lyonnais, directeur de recherche chez ASD Aerospace. Donc, avant de. Je pense qu'il peut se présenter un peu après, mais juste pour rappeler que l'ASD est un. Aerospace, donc ASD de manière générale pour l'aéronautique, le spatial et la défense, et Aerospace en particulier pour le spatial. Et pour nous, les industriels, un outil particulièrement important, puisque Aerospace est quelque part l'endroit où nous sommes autorisés à faire remonter toutes les informations qui nous paraissent utiles et qui restent confidentielles. Donc et voilà, donc tout ça s'est brassé. Il y a pour vous faire comprendre qu'il y a une quantité de savoir très très important sur le spatial européen qui est aujourd'hui, depuis des décennies, emmagasiné chez Eurospace et restitué de façon anonyme et après des analyses travaillées, comme Pierre pourra vous en faire part. Pierre, je t'invite à te présenter et parler directement depuis le pupitre. Oui. Donc le sujet, c'est l'analyse de marché, hein, donc c'est cette session, et en particulier quelque chose qui change complètement la donne en ce moment, c'est la baisse des coûts dans le service de lancement, et puis ce que ça donne en termes de nouveaux modèles économiques, en particulier évidemment pour les systèmes qui sont des gros utilisateurs des services de lancement comme les méga-constellations.
Merci, merci Marc, bonjour à tous, bon après-midi, bonne digestion. Effectivement, je suis depuis 30 ans un observateur presque obsessionnel du secteur spatial européen. Je suis économiste de formation et j'ai pu exprimer ces compétences en économie au quotidien depuis que je travaille, donc depuis 1994, depuis que j'ai rejoint ASD Aerospace, d'abord comme analyste et puis aujourd'hui comme directeur de recherche et administrateur délégué. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans le secteur spatial pour un économiste, c'est en même temps la difficulté à obtenir des datas, parce que le secteur qui est d'une importance politique significative reste aujourd'hui un secteur que je qualifie de secteur industriel de niche, au sens où c'est un secteur qui représente un volant d'emplois industriels relativement limité. On est sur aujourd'hui 66 000 salariés de l'industrie spatiale en Europe. Et puis, selon les différentes estimations que d'autres analystes du secteur sont capables de faire, on pense qu'aujourd'hui, le secteur représente peut-être un petit million de personnes dans le monde qui travaillent dans l'industrie spatiale. Alors, je pense que, en tant qu'économiste et puis un peu emmerdeur sur les bords, je vais parler de définition parce que donc un des problématiques qu'on a quand on parle d'économie du spatial, c'est que souvent les périmètres de définition vont différer. Donc quand je parle précisément ici sur des chiffres d'industrie spatiale, je parle bien de cette industrie qui est une industrie manufacturière et dont le métier est de fabriquer des systèmes spatiaux, donc des objets qui ont destination à voler en orbite circumterrestre et éventuellement s'éloigner pour s'approcher des planètes et quitter éventuellement le système solaire comme on est capable de le faire dans des missions axées extrêmes. Et puis l'ensemble de systèmes et services qui permettent de déployer cette infrastructure en orbite. Donc quand je parle ici d'industrie spatiale, je parle bien de la partie infrastructure qui permet bien sûr de délivrer toute une série de services dont certains sont très connus, d'autres sont moins connus. Et l'ensemble de ces services aujourd'hui a des usages économiques, sociaux particulièrement critiques et intéressants. Donc, le spatial, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est avant tout une industrie qui fournit de l'infrastructure. C'est une industrie qui elle est fille du nucléaire, elle est fille de l'électronique et elle s'exprime aujourd'hui de plus en plus dans un contexte où l'économie digitale a pris énormément d'importance, que ce soit par la fourniture de données, que ce soit par la fourniture d'un signal de localisation. Alors, cette industrie, aujourd'hui, elle enregistre des phénomènes de croissance massive. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on lance de plus en plus de satellites. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans l'industrie il y a 30 ans, on lançait une centaine de satellites par an. Il y avait environ 60 à 80 lancements de satellites tous les ans. Et puis, c'est resté comme ça, plan-plan, jusqu'en 2020-2021. Ça ne bougeait pas trop. Alors, les satellites devenaient de plus en plus évolutifs, ils étaient de plus en plus modernes. Mais on était dans un domaine où, à l'échelle globale, eh bien, finalement, on connaissait chaque lancement. On le suivait, on en avait à peu près un par semaine. Ce n'était pas énormément d'activité. Aujourd'hui, on lance 15 fois plus de satellites en orbite. Et alors ces satellites sont un peu plus petits, donc ça représente aujourd'hui 5 fois plus de masse qui est déployée en orbite. Et cette tendance, elle est très très frappante. Ce qu'elle a de frappant, c'est qu'en fait, cette énorme croissance du nombre de satellites de masse déployée en orbite, eh bien, elle n'est pas généralisée, c'est pas comme si l'ensemble des acteurs s'étaient mis à faire plus. La quasi-totalité de la croissance qu'on enregistre ces derniers temps, eh bien, elle est liée à un seul acteur. Un nouvel acteur qui est arrivé dans le système, cet acteur c'est SpaceX, et l'incroyable croissance que l'on a mesurée du nombre de satellites lancés et de la masse déployée en orbite, eh bien, elle est à 90% associée au déploiement de la constellation Starlink avec les 7000 satellites en orbite et ainsi de suite. Ce développement, cette croissance très importante, on l'a labellisé sous plusieurs termes. Je me rappelle, on parlait dans les années 2015-2016, avant encore le déploiement des satellites Starlink, on parlait de révolution du petit satellite, puisqu'effectivement, comme je vous dis, ces satellites sont un peu plus petits que la moyenne qu'on avait tendance à faire dans le temps. On a parlé d'accélération de la commercialisation du spatial. Alors moi, c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Alors d'habitude, je viens avec des milliards de planches, des histogrammes, etc. Là, je suis tout nu. Je viens juste vous parler, donc essayer de vous transmettre des choses sans vous abrutir avec des planches et des chiffres. Donc ce développement de la commercialisation du spatial, la montée des nouvelles applications, qu'est-ce qu'il en est ? Donc en tant qu'économiste, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quels sont les financements qui sont disponibles aujourd'hui, qui étaient disponibles hier et qui sont disponibles à l'avenir pour financer le déploiement de cette infrastructure. C'est très important de comprendre, de la même façon qu'aujourd'hui, si je veux fournir de l'électricité, je peux investir sur plusieurs dizaines d'années pour développer une tranche de centrale nucléaire, je peux investir sur une durée de vie un petit peu plus courte et faire un champ d'éoliennes. Ce qui est important, c'est l'investissement que cette infrastructure va requérir, la durée de vie de cette infrastructure et les recettes que je vais pouvoir générer en livrant de l'électricité. Le spatial, c'est un peu la même chose. La problématique clé de mon analyse, c'est quels montants sont disponibles pour financer l'infrastructure, qu'est-ce que cette infrastructure est capable de délivrer en orbite ? Est-ce que ce sont des services de communication ? Est-ce que ce sont des services de data ? Est-ce que ce sont des services de positionnement, navigation, et ainsi de suite ? Et quelle est la durée de vie de cette infrastructure ? Et enfin, est-ce que ces recettes que je génère avec cette infrastructure permettent d'en financer son déploiement, son entretien et pourquoi pas son renouvellement si le marché de ces services il existe. Il est donc très très important de comprendre la différence fondamentale entre le service fourni par l'infrastructure elle-même, un service de communication, une donnée, et la valeur ajoutée éventuellement générée par ces services. La différence entre les deux, elle est importante puisque si aujourd'hui je fournis de l'électricité et cette électricité, elle est consommée ici, parce qu'il y a de la sonorisation, parce qu'il y a de l'éclairage, parce qu'il y a de l'air conditionné. Tout ça est... Et puis ici, on génère du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires qui est généré par l'activité assise du New Space permet de financer une consommation électrique, mais c'est uniquement cette consommation électrique qui va me permettre, moi, de financer mon infrastructure de fourniture électrique. Dans le spatial, on a parfois tendance à effacer la frontière entre la valeur ajoutée créée par le service spatial, qui peut être très très importante, et confondre cette valeur ajoutée avec le financement qui est effectivement accessible pour l'opérateur de satellite, qui lui fournit un service satellitaire qui est en général assez basique. Donc historiquement, on a un segment commercial du satellite qui s'est développé vers la fin des années 80, le début des années 90, et qui finançait le déploiement d'infrastructures, de satellites, à hauteur, grosso modo, de 8, peut-être 9, parfois 7 milliards par an, ce sont des milliards de dollars. Et cette infrastructure, elle était financée parce que ce secteur commercial d'opérations satellitaires générait lui-même des revenus en fournissant des services, principalement des services de communication, qui lui rapportaient entre 15 et 20 milliards de dollars par an. Donc on voit qu'on a un service satellitaire qui rapporte 15 à 20 milliards et qui finance tous les ans le déploiement, l'entretien, le maintien d'une infrastructure qui représente peut-être 7 à 10 milliards par an, une bonne année ou une mauvaise année. Ceci inclut donc le coût d'investissement dans l'infrastructure satellitaire et le coût du service de lancement associé. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, historiquement, ces milliards de dollars, ils étaient générés par l'exploitation d'une orbite particulière qui était l'orbite géostationnaire. Et une des vraies révolutions que l'on constate avec ces x15 satellites en plus qu'on lance tous les ans, cette masse qui s'est déployée, c'est qu'en fait, aujourd'hui, cette valeur, elle se crée plutôt en orbite basse. Et donc aujourd'hui, l'opérateur Starlink est venu prendre sa part de ce marché et génère un chiffre d'affaires de 6 à 7 milliards de dollars en fournissant des services de communication par satellite à partir de l'orbite basse, avec un modèle économique qui est donc très très différent, puisqu'on n'est plus sur des satellites de durée de vie très très longue, opérés en géostationnaire, mais sur des satellites qu'on déploie en plus grande quantité et qui fonctionnent l'orbite basse. Et finalement, ce qui est intéressant de noter, c'est que cette révolution en nombre et en masse de satellites déployés, dont Starlink est au cœur, elle ne change pas dynamiquement, fondamentalement, l'économie du système. Ça, c'est quelque chose qui est assez contre-intuitif, mais on constate que l'ensemble du revenu généré par les communications satellitaires commerciales, il reste encore aujourd'hui, compris entre 15 et 20 milliards de dollars. La problématique aujourd'hui pour les opérateurs historiquement installés sur ce secteur, c'est que le nouvel opérateur Starlink est venu leur voler une part de leur marché, et donc ils se retrouvent avec des parts de marché en baisse et avec des recettes qui baissent. Donc, ce qui était particulier de cette croissance du business des satellites commerciaux en Léo, c'est ce phénomène assez unique qui est celui de la baisse phénoménale des coûts de production de l'infrastructure. Ce que moi j'aime appeler aujourd'hui la recette SpaceX. Il y a quelque chose de très particulier, mais SpaceX n'était pas les seuls. Si on prend l'exemple aujourd'hui des satellites de communication commerciaux, on constate par exemple que par rapport aux satellites géostationnaires classiques, historiques, qui avait occupé ce segment de façon quasi sans discontinuer pendant les 30 dernières années, on voit que, par exemple, le satellite, le système OneWeb, qui a produit 650 satellites, là où en général on en fabriquait entre 15 et 20 par an pour l'orbite géostationnaire, a permis de diviser par 5 le coût de la fourniture des mégabits par seconde en orbite. Donc le coût de la capacité, avec un système comme OneWeb, a été réduit d'un facteur 5. Avec Starlink, on atteint une autre dimension. Les calculs vont différer, puisque bien sûr, Starlink ne donne pas beaucoup d'informations réelles sur les finances de l'entreprise. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que, selon les différentes hypothèses qu'on va mener sur l'entreprise SpaceX, on constate qu'avec 7000 satellites qui ont été produits et lancés, Starlink a probablement divisé, non plus par 5, mais par 50, le coût du mégabit par seconde en orbite. Mais la particularité de ces systèmes en orbite basse, c'est que la totalité de la capacité que vous déployez n'est pas forcément exploitable, parce que le gros des satellites, finalement, il passe son temps sur des zones où soit vous n'avez pas de licence d'opération, soit il n'y a personne. Donc au final, on pense que finalement, à peu près seulement 15 à 20% de cette capacité, elle est effectivement vendable. Et par ailleurs, ces satellites, ils ont des durées de vie plus courtes. Donc ils ont un taux d'exploitation plus faible, ils ont une durée de vie plus courte, et à la fin, le terminal lui-même est un petit peu plus cher. Il n'est pas très très clair aujourd'hui de savoir si ce système, qui effectivement permet de réduire significativement les coûts de fabrication et le coût de production du mégabit par seconde en orbite, donc la capacité vendable, est-ce que c'est vraiment aujourd'hui un gain net pour l'opérateur, mais aussi pour les clients. Un des éléments aussi qui a beaucoup été mis en avant dans ce système, c'est la baisse du coût de lancement. Alors, on lit souvent que le lanceur Falcon a abaissé le coût de lancement d'un facteur 10, parfois 20, parfois 30. Il faut bien différencier ce qui est le coût du lancement pour l'entreprise de SpaceX et ce qui est le prix payé par les opérateurs qui font appel au service de lancement de SpaceX. Et les deux choses sont un petit peu décorrélées. Dans la mesure où aujourd'hui, encore une fois, beaucoup d'analystes travaillent sur le modèle SpaceX en se posant la question de comment ça marche, et je fais partie de ceux qui sont aujourd'hui convaincus que le coût moyen de lancement du Falcon 9 est aujourd'hui très très bas. Probablement, en coût moyen hors amortissement des coûts fixes, il est de l'ordre de peut-être 20 millions par lancement sur une base annuelle de plus de 100 lancements par an. Donc avec effectivement une baisse des coûts très significative. En revanche, pour les gens dans la salle qui ont déjà fait appel au service de lancement SpaceX, vous savez que le prix, lui, n'a pas du tout suivi ce genre de courbe. Que donc il y a effectivement une baisse des coûts, mais qu'aujourd'hui ces coûts, très très bas, sont probablement accessibles uniquement à l'entreprise SpaceX pour le déploiement Starlink, et que pour tous les autres, on continue à payer le prix fort de lancement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si SpaceX devait se payer pour le coût de lancement des Starlink le prix qu'ils font payer les autres opérateurs commerciaux, eh bien il est probable que la faillite de l'entreprise Starlink serait inéluctable, puisqu'il serait impossible de vendre les services à un coût qui permettrait d'en faire un service de masse, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc si SpaceX est capable de diviser par 5 le coût de lancement, comme il ne le baisse pas pour ses clients, eh bien pour moi, ça apporte quand même une limite très très forte à ce qu'on peut espérer comme développement des applications commerciales du spatial, dont une partie est absolument liée à la nécessité d'accéder à l'orbite à un tarif beaucoup moins onéreux que ce qui était dans le passé. Les études qu'on a faites, nous, à Eurospace, nous permettent aujourd'hui de partager avec vous que le coût d'accès à l'orbite basse, notamment depuis ces 15 dernières années, n'a pas beaucoup changé. Globalement, vous allez payer entre 10 et 20 000 dollars par kilo déployé en orbite, en fonction de vos paramètres, en fonction du taux d'emplissage, mais on est encore sur des tarifs assez importants. À titre de comparaison, on imagine que, à contrario, Starlink est déployé en orbite à un coût qui est inférieur à 1500 dollars par kilo. Donc il y a un facteur 10 d'efficacité qui est uniquement accessible à la constellation Starlink. S'il était accessible à toute une série d'autres opérateurs commerciaux, peut-être qu'il y aurait toute une série de business models qui deviendraient aujourd'hui viables en exploitant l'orbite basse notamment, qui ne l'était pas auparavant. Donc on est quand même aujourd'hui sur une situation particulière. Par ailleurs, je voulais aussi attirer votre attention sur le fait que le déploiement de satellites en orbite basse se traduit par des durées de vie beaucoup plus courtes de ces satellites. Donc les gains de productivité que l'on obtient sur la fabrication de satellites en grand nombre et éventuellement les gains de productivité qu'on obtiendrait parce que le coût de lancement serait beaucoup plus bas, ben, il faut quand même les amortir sur des durées de vie beaucoup plus courtes. Donc on est quand même aujourd'hui sur des modèles économiques qui ne sont pas forcément d'une simplicité extrême, et ce n'est pas évident. On ne peut pas dire ah ben maintenant le coût de lancement c'est 20 fois moins cher, et puis les satellites ça ne coûte plus rien à produire puisqu'on fait des CubeSat. À la fin, c'est beaucoup moins simple que ça. Il faut quand même regarder l'ensemble des paramètres économiques. On a vu aussi arriver, associé à ce mouvement du New Space, la question des apports de nouveaux financements. Donc, on a vu émerger toute une série de nouvelles entreprises.